Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi pile, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Emmanuel Macron est à Nice pour parler sécurité. Il fait des propositions, on appellera Jacques Serret qui suit ce déplacement du président candidat. Le monsieur sécurité de Valérie Pécresse, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, est dans Europe Midi. Il est sévère, vous l'entendrez, vis-à-vis du bilan sécuritaire du président de la République. Faut-il en finir avec la stratégie des tests du Covid à tout va? On sera en direct avec le président du syndicat des biologistes, François Blanchecotte. Et puis on ira à Toulouse, il pleut beaucoup dans le sud-ouest. 5 départements sont en vigilance rouge. Prudence si vous vous trouvez dans la zone. D'ailleurs, la tendance météo avec vous, Anissa Haddadi, la journée sera critique dans le sud-ouest.
Oui, et c'est cet après-midi, Romain, que la situation sera la plus tendue dans le sud-ouest avec de fortes précipitations. Des crues attendues entre le bassin aquitain et les Pyrénées. Prudence, 5 départements vigilance rouge. Attention également au risque d'avalanche. Sur la moitié est, là, c'est beaucoup plus calme avec un temps même bien ensoleillé.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Emmanuel Macron défend son bilan en matière de sécurité et il est allé pour cela dans la ville de Christian Estrosi, maire de Nice. Jacques Serret en direct de Nice, c'est vous qui suivez ce déplacement pour Europe 1. Jacques, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour le moment, parce que le président de la République est en train de parler là,
Et bien sûr, ces terres de droite, aux côtés du maire de Nice, l'ex-LR Christian Estrosi, Emmanuel Macron défend d'abord son bilan aujourd'hui.
On ne peut pas dire tout part à volo, tout augmente, tout explose. Les chiffres ne disent pas ça. On a sur les cambriolages de logements une baisse de 15%. On a sur les vols de véhicules ou les vols avec armes une baisse respectivement de 22 et 29%. Et sur les vols violents sans armes, une baisse de 27%.
Les actes ne sont pas plus nombreux, mais oui, ils sont plus violents, admet tout de même le chef de l'État qui échange actuellement devant une centaine de policiers, d'élus et de représentants d'associations. Et clairement, il a décidé d'afficher une fermeté contre les trafics de drogue.
S'il y a des trafiquants de drogue, c'est qu'il y a des consommateurs de drogue. Et donc la drogue festive, récréative, sympathique, entre amis, avec les moyens, c'est une complicité de ce réseau. Ce sont les gens qui, au fond, subventionnent ceux qui vous rendent la vie impossible.
Bilan, fermeté et à 3 mois de la présidentielle, même s'il n'est pas officiellement candidat, ce sont bel et bien des promesses qu'il a décidé de faire aujourd'hui.
On va mobiliser des forces supplémentaires. On va créer 200 brigades de gendarmerie en milieu rural. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va nous permettre le doublement des forces de police sur le terrain en action pour la protection et la sécurité d'ici à 2030.
Doubler les policiers sur le terrain, une réponse, sans le dire, à Valérie Pécresse qui, elle, a décidé de, qui propose de ressortir le karcher de la cave.
Jacques Serret en direct de Nice. Merci beaucoup Jacques. Voilà Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, qui s'est donné notamment un objectif qui ressemble fort à une promesse de campagne, doubler le nombre de policiers sur le terrain dans 10 ans. Ça laisse le temps de voir, c'est en 2030, dans 9 ans exactement. Quant aux députés Les Républicains des Alpes-Maritimes, il n'a pas voulu accueillir le président de la République car, dit-il, ce n'est pas le président qui se rend à Nice, mais le candidat Macron. Écoutez Éric Ciotti.
Monsieur Macron se soucie des questions de sécurité à 90 jours de la fin de son mandat. Il vient soi-disant déposer une première pierre d'un hôtel de police dont le permis de construire n'est toujours pas déposé. Donc il est invité par ses soutiens locaux, au premier rang d'entre eux le maire de Nice. Ils font une campagne électorale. Il faut arrêter avec les faux-semblants, avec l'hypocrisie, avec cette communication outrancière d'un président de la République qui utilise les moyens de l'État pour faire campagne. Et puis, sur le fond, je veux aussi, bien sûr, et c'est pour ça que je suis allé ce matin, au même moment à la maison d'arrêt de Nice, dénoncer la vacuité, l'échec, le bilan calamiteux de M. Macron en matière de sécurité. Il faut rétablir l'ordre républicain et c'est tout le contraire de ce qu'a fait M. Macron.
Voilà Éric Ciotti qui répondait à Victor Chabert. Après les crues meurtrières de 2020 dans les vallées au-dessus de Nice, Emmanuel Macron va se rendre sur place dans les prochaines heures. C'est la deuxième partie de cette visite du président de la République. Frédéric Michel en direct de Tende, dans la vallée de la Roya, avec nous. Frédéric, Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas y aller. La vallée de la Roya est meurtrie depuis la tempête Alex. Qu'est-ce que le passage du président de la République déjà va changer pour les habitants et qu'est-ce que les habitants en attendent de cette visite, Frédéric ?
Plus de moyens, hein, Romain, c'est certain. Les habitants espèrent que cette visite présidentielle donnera une impulsion supplémentaire. Plus de 60 familles ont dû quitter leur maison ici dans le haut de la vallée de la Roya. Et pour ceux qui, comme Daniel, ont pu rester, le quotidien reste difficile.
Oui, c'était très compliqué. Un an et demi après, on est presque toujours au même point. Et là, on est coupé un peu parce qu'on a un passage à gué qui est précaire puisque les bus sont à moitié bouchés. Et à la prochaine crue, on n'aura plus de passage.
Alors, beaucoup de travaux ont été engagés, notamment pour établir les liaisons routières et ferroviaires, permettre la reconstruction d'une dizaine de ponts. Mirella habite Breil-sur-Roya, où le lac, situé au cœur de la ville, avait totalement disparu après la tempête.
Le travail a été fait, il est là, on le voit. Les gens le reconnaissent.
Quand le lac a été remis en eau, c'est vrai que ça a été agréable. On avait l'impression d'être à nouveau dans notre Breil d'avant.
Reste un point noir, l'accès routier à l'Italie est toujours coupé. Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende.
Je vais demander au président de faire pression sur l'Italie parce qu'il ne faut pas accepter que l'Italie impose le temps des travaux. Et actuellement, il ne reste que 1 km 200 à percer dans le tunnel du col de Tende. 1 km 200, ça doit être percé rapidement. Le tunnel du col de Tende, c'est un cordon ombilical qui relie le Piémont à la Ligurie, aux Alpes-Maritimes et à Monaco.
Et rappelons que depuis la Deuxième Guerre mondiale, en termes d'infrastructure, la France n'a jamais connu un pareil catastrophe.
Frédéric Michel en direct de Tende dans la vallée de la Roya. Merci beaucoup Frédéric. Cette information également, Emmanuel Macron a dénoncé depuis Nice l'agression, je cite, inacceptable d'un député, LREM en l'occurrence, par des opposants au pass sanitaire. C'est un député qui a été agressé par des militants anti-pass sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. À ce sujet, cette information Europe 1 de Gladys Laffitte. Un dispositif de sécurisation a été mis en place autour du domicile de ce député Stéphane Clairaut, qui a été donc agressé devant chez lui. Une vingtaine de gendarmes sont chargés d'assurer sa sécurité. Ils sont positionnés de manière statique devant son domicile, mais aussi en patrouille. C'est une information de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Il est 12h37.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
On a tous vu les files d'attente devant les labos ou les pharmacies pour faire des tests Covid. On s'y est même retrouvé pour nombre d'entre nous. Il y a environ 1 500 000 tests réalisés chaque jour. En France, 1 500 000. Loin de vouloir revoir sa politique de test, le gouvernement veut multiplier les centres où l'on va pouvoir se faire tester. Céline Géraud, bonjour Céline.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce qui est prévu exactement ?
Alors d'un côté, plusieurs centaines de centres de dépistage seront aménagés à proximité des centres de vaccination afin que dans les moments de creux, les personnels de santé puissent aussi faire du dépistage. De l'autre, dans les pharmacies, démultiplication des tests avec du renfort, des infirmiers, mais aussi des diplômés ou des étudiants en master de biologie moléculaire, désormais habilités à procéder au prélèvement. Un arrêté a été publié au journal officiel hier. Actuellement, près de 2/3 des tests se déroulent dans les pharmacies. Il y a 17 000 pharmacies qui font déjà du dépistage. Il en reste donc 4 000 à séduire. L'atout du gouvernement, l'indemnisation des stocks de tests invendus pour les officines qui joueront le jeu. Mais les pharmaciens déjà épuisés exigent d'autres garanties. Ils demandent surtout un véritable soutien administratif pour le recrutement et la prise en charge par l'assurance maladie de ce personnel supplémentaire. Gabriel Attal assume cette stratégie de dépistage massif. Le risque, déplacer l'embouteillage des laboratoires vers les pharmacies.
Céline Géraud, merci beaucoup Céline. Justement, on est en direct avec François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Bonjour François Blanchecotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que les labos vont pouvoir longtemps continuer à tester le Covid à ce rythme ?
Écoutez, pour l'instant, nous avons des files d'attente, effectivement, qui grossissent. On a évidemment, bien sûr, des patients qui viennent de tous bords. Et puis, je pense qu'il faut répondre à la demande qui est importante, à savoir les gens qui ont des symptômes, ceux qui se font hospitaliser, ceux qui ont besoin d'une urgence. Et ça, c'est très important qu'on puisse continuer à faire des PCR dans de bonnes conditions. L'arrêté qui sort est à notre demande. Nous avions demandé une extension à la cellule test, évidemment. Bon, j'espère que je suis d'accord pour que nos amis pharmaciens en bénéficient, mais en tout cas, on l'avait demandé aussi pour les laboratoires. Vous savez que nous avons aussi des problèmes de personnel et de personnel qui s'arrête, qui sont fatigués. D'autre part, ils ont parfois des arrêts de travail dus à des cas positifs dans leur famille. Donc c'est très important qu'on continue à avoir une activité de PCR parce que c'est ça qui donne aussi l'image, en tout cas, de la variation, des variants qui arrivent sur le territoire.
Certains demandent qu'on mette en place des files prioritaires. Alors c'est valable pour les labos comme pour les pharmacies. Vous y êtes favorable ?
Nous, ça nous paraît extrêmement difficile quand vous avez une seule entrée de laboratoire. Moi, j'ai la chance d'avoir un laboratoire avec deux entrées, donc il y a deux files. Une où on prend les prises de sang régulières pour la biologie et l'autre qui sont réservées uniquement au Covid. Donc, on assume tout à fait le fait de prendre les prises de sang au fur et à mesure et de façon prioritaire. Mais par contre, pour ceux qui ont une seule entrée, mais comme toute une pharmacie ou ailleurs, c'est extrêmement difficile de prioriser les gens. Le gouvernement veut qu'on le fasse, mais ça me paraît très compliqué.
Oui. Une dernière question, François Blanchecotte. Il y a eu des bugs avec des résultats de PCR qu'on a attendus pendant plusieurs jours. Est-ce que ça s'est terminé ou est-ce que ça pourrait se reproduire ?
Alors, il y a eu des pannes, effectivement, ou un encombrement au niveau de SINEP. Il y a eu deux mises à jour, plusieurs mises à jour dans la nuit successive. Il y a eu beaucoup de retard, effectivement. C'est pas dû forcément qu'au laboratoire. C'est dû au système qui a été embolisé à un moment donné. Il semblerait que pour l'instant, tout soit revenu dans l'ordre avec des capacités supérieures et de pouvoir avoir les résultats en temps réel. Et donc ça, ça va nous aider, effectivement. Mais c'est pas dû qu'au laboratoire et au retard des résultats.
C'est aussi dû au gouvernement, c'est ce que vous nous dites.
Un petit peu. Chacun sa pierre,
chacun ses responsabilités. Merci beaucoup François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. On est avec le professeur Didier Pittet à présent. Bonjour professeur, épidémiologiste.
Bonjour.
Chef du service de contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. Les tests à tout va, avec ce risque d'embolie, on en parlait avec François Blanchecotte. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour lutter contre l'épidémie ? Parce qu'après tout, c'est quand même le but.
Alors écoutez, au plan stratégique et au plan épidémiologique, oui, c'est la bonne stratégie. On entend 1 500 000 tests pour une population de 68 millions, ça fait environ 2,2% de la population. C'est juste, tactiquement, il faut pouvoir suivre la situation au plus près, de manière à ce que chacun puisse prendre ses précautions. Rappelons-nous que si 20% d'entre nous arrivons à réduire nos contacts sociaux, parce que par exemple on a été testé et qu'on est positif, on va diminuer d'autant la taille de la vague Omicron. Donc tactiquement, oui, c'est juste. Et je comprends très bien que ce soit parfois difficile pour les labos. Très pragmatiquement, on vient de l'entendre. Si on peut avoir des files prioritaires, c'est bien. Quand on a deux entrées, c'est plus facile. Tout ça, je l'entends. Mais tactiquement, oui, c'est juste au plan épidémiologique que de vouloir tester.
Professeur Didier Pittet, on parle beaucoup de Deltacron, qui serait une combinaison des vaccins Delta et Omicron, ce qui pourrait être ennuyeux, parce que s'il est aussi dangereux que Delta et contagieux qu'Omicron, ça pourrait être inquiétant. Qu'est-ce qu'on en sait exactement ?
Alors, écoutez, pour l'instant, c'est très préliminaire, c'est ce qu'il faut en dire, avant tout. Et que de nouveaux variants apparaissent, c'est évident. On doit s'attendre à de nouveaux variants. On va voir cette vague Omicron qui va être gigantesque, elle va continuer de monter. Et puis ensuite, il y aura d'autres variants, c'est sûr. Mais rappelons-nous que chaque couche de vaccin, appelons-la une dose, chaque couche d'infection, chaque fois qu'on rajoute une de ces couches, on augmente l'immunité de population et on se défend mieux contre ce virus, ces variants et les autres à venir. Donc, on s'attendait à une telle situation, ça n'est pas une surprise. Fort heureusement, comme on le voit, malgré une vague Omicron qui va encore augmenter, on voit que pour l'instant, les hospitalisations restent relativement stables. On sait que malheureusement, elles vont certainement augmenter encore un peu. La réanimation pour l'instant tient le coup dans la plupart des pays dans lesquels la couverture vaccinale est la meilleure. Et voilà, on est en train simplement de courir. C'est une course qui continue entre le virus, ses variants et les vaccins.
Une dernière question, professeur. 300 000 cas de Covid détectés en 24 heures. Est-ce qu'on a atteint le pic ou est-ce qu'on est sur un plateau ? Comment vous voyez les choses ?
Écoutez, je pense que les choses vont continuer avec la reprise des activités. Certainement, on ne peut pas on peut pas faire des prédictions qui sont tout à fait exactes, mais cette vague Omicron, on va encore devoir la supporter tout le mois de janvier, février une partie, elle va probablement diminuer relativement rapidement ensuite et on sera certainement à distance au mois de mars. Et voilà, il faut vivre avec ce virus, c'est notre façon de vivre avec ce virus, en essayant de protéger ceux qui doivent être le plus protégés, de vacciner, de ne pas oublier les rappels. Et puis, si chacun, encore une fois, fait un effort particulier, on sait qu'on va pouvoir finalement limiter les dégâts, qu'ils soient sur les personnes qui doivent subir ou devront malheureusement subir des pertes de chance ou sur notre société et son fonctionnement, bien évidemment.
Merci beaucoup, professeur Didier Pittet, en direct avec nous dans Europe Midi. Merci beaucoup. 12h45, tiens, cette information qui tombe à l'instant, en soutien aux enseignants en grève, la FCPE, les parents d'élèves de la FCPE, appellent les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école jeudi prochain, jour de grève, donc à l'appel de plusieurs syndicats et de professeurs, on en reparlera. 12h45 donc, on va partir dans un instant à Toulouse, en tout cas dans le sud-ouest où il pleut beaucoup. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h47, on part tout de suite à Toulouse, où se trouve Benjamin Péter. 5 départements du sud-ouest sont placés en vigilance rouge. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne, où vous vous trouvez, Benjamin. Bonjour Benjamin. Il faut être prudent hein, si on circule dans ces zones, dans ces départements, parce que le niveau des eaux monte et le pic est attendu dans les prochaines heures. Hein.
Eh bien oui, parce qu'il pleut toujours abondamment hein, sur l'ensemble des départements des Pyrénées. Jusqu'ici, il est tombé l'équivalent de 3 semaines à 1 mois de pluie par endroit ces dernières 24 heures et on en attend autant jusqu'à demain. Beaucoup de pluie donc, mais peu de dégâts heureusement pour le moment. Quelques routes coupées, des lignes TER interrompues dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais ce qu'on redoute dans les départements de montagne, c'est l'effet cumulé de ces précipitations avec le redoux, puisque la limite pluie-neige est remontée au-delà de 2000 mètres. Écoutez le préfet des Hautes-Pyrénées, Rodolphe Fursy.
La pluie pénètre le manteau neigeux et ça fait fondre beaucoup de neige. Et donc ces deux phénomènes, à la fois la pluie et la remontée de la limite pluie-neige, font qu'on a des très fortes quantités d'eau qui viennent remplir les cours d'eau. Des débordements, des petits débordements, on en constate déjà notamment sur l'Adour, notamment à Tarbes. C'est pour ça qu'on est effectivement très vigilant pour suivre le niveau des cours d'eau.
Voilà, et depuis quelques heures, l'attention se tourne vers l'Ariège où les pompiers ont effectué une cinquantaine d'interventions, dont une vingtaine sont actuellement en cours, et notamment 5 évacuations de personnes qui se sont retrouvées coincées dans leur véhicule après avoir forcé le passage d'une route coupée. Les pompiers qui donc renouvellent les appels à la prudence, bien respecter les panneaux de signalisation, ne pas monter sur les toits pour colmater des fuites par exemple, et de ne surtout pas se rendre en montagne compte tenu de l'instabilité du manteau neigeux.
Merci beaucoup Benjamin, voilà vos bons conseils pour il faut faire extrêmement attention et être extrêmement prudent. On a tous remarqué qu'en ce moment, les prix augmentaient. C'est l'inflation, 2,8% en un an d'après l'INSEE. Parmi les conséquences, il devrait y avoir une légère remontée du taux du livret A. C'est important, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Tout devrait se décider cette semaine. Carole Ferry, on pourrait passer de 0,5% pour le taux du livret A à 0,8%. Hein.
Oui, parce qu'en fait, vous avez une formule de calcul qui tient compte à la fois de l'inflation sur les 6 derniers mois, mais aussi des taux de marché monétaire. Alors, il faudra attendre les prochains chiffres consolidés de l'INSEE, attendus en fin de semaine pour avoir le montant exact. Mais on devrait en effet être autour de 0,8%, une revalorisation qui permettrait d'améliorer la rémunération du livret A, selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
Sur un livret A avec 15 000 euros, on passe donc d'un rendement sur l'année de 75% à 130 euros pour une personne qui aurait un livret A au plafond, ce serait donc une soixantaine d'euros supplémentaires sur l'année.
Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà prévenu qu'il donnerait son feu vert au résultat de cette formule calculée par la Banque de France. Il n'y aura en revanche pas de coup de pouce supplémentaire pour les épargnants.
Merci Carole. La concurrence se concrétise encore un petit peu plus pour la SNCF cette année. Écoutez bien, après les TGV de Trenitalia le mois dernier, les TGV italiens, une autre initiative se développe en France. Et ce qui est inédit, c'est que c'est une coopérative. Ça s'appelle RailCoop, coop comme coopérative. Aurélien Fleureau, leur ambition, l'ambition de RailCoop, c'est relancer des lignes délaissées, hein.
Oui, exactement. Et à terme, réussir à créer un réseau complémentaire à celui de la SNCF. Alors cela commencera très concrètement avec Bordeaux-Lyon le 11 décembre prochain. Ce sera la première liaison commerciale de Railcoop qui a en revanche déjà commencé à faire rouler des trains de marchandises du fret ferroviaire pour faire baisser le nombre de camions sur les routes. Pour l'instant, entre Figeac et Toulouse. Railcoop, c'est donc une affaire de passionnés de train, mais c'est surtout une coopérative en plein développement, comme l'explique son président Dominique Guéret.
On est 10 600 personnes physiques, personnes morales et collectivités hein, qui sont autour de la table pour mener à bien ce projet. Une première société ferroviaire créée ex nihilo. Nous allons traverser des zones rurales et des petites villes. Nous allons faire une liaison transversale sans passer par Paris. C'est bien le sens et les collectivités l'ont compris vu qu'elles viennent nombreuses au sociétariat de Railcoop.
Pour l'instant, Railcoop a racheté d'anciens TER et va donc proposer d'autres liaisons dans les années qui viennent puisque l'autorité de régulation des transports vient d'accorder à la coopérative le droit de se pencher sur 8 nouvelles lignes comme Nantes-Lille ou Toulouse-Caen.
Aurélien Fleureau, merci beaucoup Aurélien. 12h52, restez bien avec nous dans un instant, on part en Australie pour tenter de comprendre ce qui se passe autour de Novak Djokovic. Un broglio autour du cas Novak Djokovic. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Un nouvel épisode du feuilleton Djokovic en Australie. Ce matin, la justice australienne a demandé la libération du numéro 1 mondial de tennis, mais ça ne marque pas la fin de l'histoire. Vous allez tout comprendre. Marion Tessen, bonjour Marion, en direct de Melbourne. Marion, déjà, où est Novak Djokovic, très concrètement, à l'heure qu'il est? Et est-ce qu'on sait s'il va jouer ou pas l'Open d'Australie qui doit débuter dans une semaine?
Bonjour, alors qu'il est là maintenant 22h55 à Melbourne, Novak Djokovic est libre. On sait qu'il a quitté l'hôtel dans lequel il était enfermé depuis sa sortie de l'aéroport jeudi matin en début d'après-midi pour pouvoir rejoindre le cabinet de ses avocats pour poursuivre le procès avec eux et y participer bien sûr. Ça c'était à la demande de la cour justement. Et puis il y a une heure environ, le ministre chargé de l'immigration a annoncé qu'il était libre pour ce soir. Donc là maintenant on imagine qu'il est dans la maison qu'il avait louée à Melbourne initialement. Et si rien ne change, il pourrait jouer l'Open d'Australie à partir de lundi prochain. On attend juste de savoir si le gouvernement fédéral va prendre la décision de l'expulser ou pas, parce qu'il en a le droit et le pouvoir. Et puis Djokovic devrait également donner une conférence de presse à 14h heure française, donc on en saura peut-être plus à ce moment-là.
Cette histoire est folle, c'est du jamais vu. Merci beaucoup Marion Tessen en direct de Melbourne. Il est 12h56, le temps. En France, avec vous Anissa Haddadi, avec de nombreux départements en vigilance rouge. Hein.
Et la vigilance rouge est la vigilance maximale, Romain. En effet, depuis hier, nous avons de fortes pluies qui s'abattent sur les Pyrénées. Les départements situés donc entre les Landes et l'Ariège sont placés en vigilance rouge. Pluie, inondation et crue. La perturbation est bloquée hein, depuis maintenant plus de 48 heures sur le Piémont avec des vents forts jusqu'à 120 km/h. Une vigilance orange est également placée sur les départements pyrénéens en raison du risque d'avalanche, où là aussi on attend de fortes chutes de neige, jusqu'à 2 mètres de neige fraîche au-delà de 2300 mètres d'altitude. Ailleurs, on a un temps qui reste humide, surtout sur la moitié ouest, hein, entre les côtes normandes et le massif central. On a des averses tout au long de l'après-midi. À l'est d'une ligne qui va des Hauts-de-France à la Méditerranée, là on a un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus sec. Quelques nuages bas qui traînent encore cet après-midi, mais le soleil domine et puis on a un risque d'avalanche sur les Alpes. Alors les températures, elles sont très douces sous la grisaille. On a 15 degrés à Mont-de-Marsan, 14 à Bordeaux, 12 à Marseille et Bastia, 11 degrés pour Cherbourg et Toulouse, 7 à Paris et Lyon, 6 à Clermont-Ferrand et 3 pour Belfort.
Merci beaucoup Anissa. Soyez prudents si vous êtes dans le sud-ouest. Dans un instant, c'est la France bouge et nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi à vous sur Europe 1.